affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour sera consacrée à des questions essentielles et même existentielles. Il sera en effet question de Dieu, de son existence, de la création et de son sens, de l'homme et de sa destinée. Il sera question de science et de métaphysique, des énigmes que sont le temps et l'espace. Il sera aussi question de la beauté du monde, du néant dont nous sommes, paraît-il, issus et qui peut-être nous attend. Mais comme ces questions sérieuses seront abordées en compagnie de Jean d'Ormesson, il faut être d'emblée parfaitement rassuré. Elles seront, ces questions graves, cruciales, déterminantes, seront aussi l'occasion, bien sûr, de célébrer la vie, le réel et sa beauté. La preuve, ces questions qui tissent la trame de son dernier roman, lequel se présente comme un roman sur rien, mais peut-être finalement un roman sur tout, et en tout cas tout sauf un roman nihiliste, puisqu'il est titré comme un chant d'espérance. Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder la question presque centrale de votre dernier livre, celle de la Genèse, je me permettrai de vous poser une question sur la Genèse du livre lui-même. Un roman sur rien, c'est une idée singulière. Comment vous est-elle venue ?
Alors, ce livre, on m'a souvent reproché d'avoir écrit mon dernier livre. Ce qui est vrai, j'ai écrit quand j'étais jeune, après avoir publié 4 ou 5 livres chez Julliard qui n'avaient pas eu beaucoup de succès. J'avais abandonné la littérature et j'avais écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci ». Et puis, vous savez ce que c'est, on est relapse, on retombe dans ses erreurs et j'ai publié d'autres livres. Alors ce livre-ci n'est pas mon dernier livre. Je suis déjà en train d'écrire un autre livre. Mais c'est un livre qui clôt une série. C'est un chant d'espérance et ce livre clôt la série des livres sur l'univers. Il m'avait semblé que, après avoir écrit un livre sur l'histoire qui s'appelait La gloire de l'Empire, j'avais essayé d'écrire une fausse histoire du monde, une autre histoire du monde. Après avoir écrit un livre sur ma famille, c'était au plaisir de Dieu, il m'a semblé que l'univers constituait un chant extraordinaire romanesque. Qu'est-ce que la science nous a appris ? La science nous a appris une foule de choses. Depuis 100 ans, la science n'a pas cessé de nous apporter des découvertes nouvelles. C'est d'ailleurs très intéressant. À la fin du 19e siècle, il y a 2 grands savants, un savant français, Berthelot, un savant anglais, Lord Kelvin, qui disent à peu près la même chose, qui disent « La science est arrivée à un tel point que nous ne découvrirons plus grand-chose maintenant. Il faut maintenant mettre en ordre tout ce que nous avons découvert. Nous avons à peu près découvert le sens de l'univers. » Et malheureusement, il faut être très prudent dans tout ce qu'on dit, malheureusement, 15 ans ou 20 ans passent et il y a une avalanche de nouveautés. La science se transforme entièrement. Einstein lance la relativité restreinte, ensuite la relativité générale. Planck découvre des choses extraordinaires. Le système quantique se met en place avec Bohr et Heisenberg. Hubble découvre, enfin c'est incroyable, Hubble découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Enfin, le monde est entièrement bouleversé. Mais ce que la science apprend peut-être de plus extraordinaire, c'est que le monde, l'univers, a une histoire. Et que l'univers est une histoire, c'est une nouveauté considérable. Les Grecs, avec Aristote en tête, les Romains, pensaient que, naturellement, le monde ne cessait de changer, mais que l'univers lui-même, dans sa globalité, dans sa totalité, était éternel et immobile. Il y avait bien un petit peuple qui avait une idée différente. C'était les Juifs, avec leur Torah, notamment avec la Genèse, et avec l'idée d'un Dieu qui créait le monde en six jours. Alors, je ne dis pas que les découvertes de la science, découvertes notamment de Hubble, c'est Hubble qui découvre que puisque les galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a dû y avoir un moment où les galaxies étaient toutes rassemblées en un seul point. Et cette théorie extraordinairement audacieuse a été confortée par cette extraordinaire découverte, par hasard d'ailleurs, de la rumeur fossile par deux personnes qui n'étaient pas vraiment des savants, qui étaient des gens qui travaillaient pour une compagnie de téléphone et qui ont découvert un bruit extraordinaire qui était le bruit fossile du Big Bang. Et donc, le Big Bang n'est toujours qu'une hypothèse. Même dans cette maison, dans l'Académie, il y a encore, à l'Académie des sciences, quelques grands esprits qui hésitent sur le Big Bang. Mais enfin, c'est une hypothèse qui est quand même à peu près universellement acceptée. Une immense majorité maintenant des savants considèrent qu'on peut tabler sur cette explosion primitive qui a été appelée le Big Bang par dérision d'ailleurs. C'était un savant très, très éminent qui s'appelait Fred Hoyle qui ne croyait pas à cette création et qui pensait que l'univers était en effet éternel et immobile et qu'il a appelé Big Bang par dérision. Et cette découverte de ce début de l'univers qui crée l'espace. L'espace n'existe pas avant le Big Bang, puisque le Big Bang, par définition, est une pointe d'épingle minuscule, plus petite que n'importe quel atome, mille fois plus petite ou des millions de fois plus petite, à des températures stupéfiantes, avec une densité énorme et qui est l'origine de l'espace. Et l'espace est encore en expansion, l'univers est encore en expansion, probablement même en expansion accélérée. Il n'est pas impossible qu'il y ait un renversement, mais pour le moment, il y a toujours cette expansion qui se produit. L'espace est en train d'augmenter et le temps, c'est plus... Il y a plus de discussions sur le temps. Je me rappelle, je n'avais naturellement aucune qualité pour discuter, mais je me suis trouvé à apostrophe avec un grand savant qui était Prigogine. Et Prigogine est de ceux qui pensent que le Big Bang s'est produit dans le temps. Mais d'autres savants pensent que le Big Bang qui crée l'espace crée en même temps le temps, ce qui est quand même plausible puisque le temps et l'espace sont si liés l'un à l'autre. Donc cet univers déboule il y a 14 milliards d'années. Et il y a des étapes successives. On peut dire que la première étape, c'est le Big Bang, passe 10 milliards d'années. Hein, et il y a une autre étape, stupéfiante aussi, moins stupéfiante, mais stupéfiante, c'est l'arrivée de la vie. Vous savez que la science elle-même considère que la vie avait une chance sur des millions d'arriver, et elle arrive. Et il y a une troisième étape qui est alors tout à fait récente, c'est à l'intérieur de cette vie l'éclosion de la pensée. Très difficile de... On peut dire que la vie, c'est peut-être 3 milliards et demi d'années, disons 10 milliards d'années après le Big Bang. Et la pensée, quand est-ce que les hommes se mettent à penser? Quand est-ce qu'ils se séparent des autres primates? C'est très difficile à dire. C'est entre 200 000 et 1 million d'années. Mais enfin, ça se compte en centaines de milliers d'années, c'est-à-dire très peu de choses. La pensée est très très récente. Quant à l'écriture, par exemple, alors là, c'est hier, n'est-ce pas? L'écriture, c'est 3 millénaires avant le Christ, à peu près. C'est-à-dire que quelqu'un comme Platon n'est pas encore très loin de l'écriture. Et il est d'ailleurs très hésitant sur l'écriture. Il considère que l'écriture, c'est peut-être un début de fin de culture, parce qu'on ne connaît plus les textes par cœur, puisqu'on les écrit. Tous les arguments qu'on avance maintenant sur le numérique, eh bien, Platon les avait déjà pratiquement contre l'écriture. Alors tout ça est évidemment une aventure formidable et je me suis dit que c'était un roman extraordinaire. Je n'ai pas marqué roman sur mes livres pour appâter le client, mais parce que je ne voulais pas qu'on croie que c'était des livres scientifiques, je n'ai aucune qualité pour écrire des livres scientifiques, ce n'était même pas des livres philosophiques, c'était des espèces de rêveries sur l'univers. Et j'ai écrit deux livres qui s'appelait « C'est une chose étrange à la fin que le monde », le titre déjà très éloquent, et « Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit ». Et ce dernier petit livre, c'est la conclusion très simple et très logique de cette aventure. Quelle est cette conclusion? Eh bien, j'ai écrit deux livres sur l'aventure des hommes et sur l'aventure de l'univers depuis le Big Bang, et il faut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que nous ne sommes presque rien. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Vous savez que dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles comparables au Soleil. Et autour de cette galaxie, il y a probablement 100 milliards de galaxies sont plus ou moins semblables, comportant chacun 100 milliards d'étoiles. Et à l'intérieur de ça, il y a notre misérable petite Terre, et sur cette Terre, il y a chacun de nous qui n'est presque rien. Et en même temps, qui est un génie extraordinaire, pour des raisons très très simples. Chacun de nous, vous, moi, ceux qui nous écoutent, connaissent en général leur père et leur mère. Peut-être ils montent jusqu'à leur grand-père et leur grand-mère. Je veux bien croire qu'ils vont jusqu'à leur arrière-grand-père et leur arrière-grand-mère. Bien que ma petite fille, par exemple, vous savez, je ne suis pas très sûr qu'elle sache même qui sont ses arrière-grands-parents. Elle ne s'en doute même pas. Mais le génie des hommes a fait qu'ils sont remontés jusqu'à l'origine des hommes, au-delà jusqu'à l'origine de la vie. Et au-delà, jusqu'au Bang, nous savons à peu près, peut-être pas siècle par siècle, mais millénaire par millénaire, probablement, l'histoire de l'univers depuis le Big Bang.
C'est oui, c'est le fond d'une dignité.
C'est stupéfiant.
Alors je comprends l'aspect narratif, puisque l'univers a un début, il peut potentiellement avoir une fin. Du coup, ça devient par nécessité un sujet narratif. Ça peut être l'objet d'un roman. Mais à la lecture de votre livre, on se rend compte que cette fois, il n'est pas tant, le sujet n'en est pas tant ce qui se déroule entre le Big Bang et la fin prochaine, mais ce qu'il y a avant le Big Bang.
Justement, c'est ce que j'allais y venir.
Et après.
J'allais y venir. Je me suis donc occupé en romancier. Pas en homme de science, bon, même pas comme en tant que philosophe, en romancier, comme une rêverie. Je me suis occupé de cette histoire qui s'étend sur 14 milliards d'années. Et puis, tout naturellement, je me suis posé la question qui est très très simple. Vous savez, ce petit livre, il est tout petit, comme un
chant. C'est 122 pages.
En réalité, il devrait y en avoir 80. Ma fille, qui est mon éditeur, a distendu un peu les choses pour faire plus de 100 pages, mais c'est très très court. Et cette question si simple, c'est puisqu'il y a un début à cet univers, qu'est-ce qu'il y avait avant le début ? Et l'idée qui m'est venue en même temps, c'est nous ne savons pas ce qu'il y avait avant le début et nous ne savons pas ce qu'il y a après notre fin. Nous savons tous une seule chose. C'est très intéressant. Nous ne savons qu'une chose et que nous ne savons pas scientifiquement. Nous ne le savons pas scientifiquement. Nous le savons simplement parce que tous les hommes sont morts. Donc, nous pensons que nous mourrons. D'ailleurs, nous ne le pensons pas vraiment, nous le savons. Nous le savons, mais grâce à Dieu, nous n'y pensons pas. Spinoza dit très bien, la philosophie est méditation de la vie, pas méditation de la mort, heureusement. Nous pensons très peu à notre mort. Mais enfin, nous mourrons. Vous mourrez, je mourrai, et tous ceux qui nous écoutent mourront. Et après, alors, qu'est-ce qu'il y a après ? Alors, c'est amusant, parce que d'un côté, c'est la question de savoir ce qu'il y avait avant 14 milliards d'années, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a après quelques mois ou quelques années, peut-être quelques jours ou quelques semaines ? Eh bien, voilà une des racines du livre. L'autre racine du livre, c'est une lecture de Flaubert. Flaubert a écrit beaucoup de livres admirables. Peut-être qu'un de ses plus beaux livres, c'est sa correspondance. La correspondance de Flaubert est magnifique. Et dans une lettre célèbre à sa maîtresse Louise Collet, il dit « Je voudrais écrire un roman sur rien ». Alors je me suis dit, au moment où je réfléchissais à cet avant-Big Bang, je me suis dit « Mais voilà, le roman de Flaubert sur rien, eh bien c'est ça, il faut voir, il faut imaginer ». Ce qu'il y a avant le Big Bang et après la mort. Et comment est-ce que je n'aurais pas appelé ça un roman ? Parce que c'est de la pure imagination.
La fiction.
C'est de la pure fiction. Je l'ai donc appelé roman.
En même temps, on est au-delà de... En lisant, on se rend compte qu'on est au-delà quand même du simple exercice littéraire même si vous déployez votre virtuosité habituelle, on est face à des béances métaphysiques. C'est un livre beaucoup plus sérieux qu'il ne peut le paraître lorsque vous évoquez Flaubert dans les premières pages. Vous posez d'authentiques questions qui taraudent l'humanité probablement depuis son origine, mais avec aujourd'hui les béances terribles qui sont celles de la science. Et on peut imaginer qu'auparavant, lorsque la foi ou la foi des hommes était plus ancrée, des réponses spontanées leur venaient. Aujourd'hui, elles n'existent plus. En tout cas, elles prennent la forme d'un doute, d'une interrogation.
Alors, n'est-ce pas, quand on réfléchit à ce qu'il y avait avant le Big Bang, acceptons le Big Bang. Acceptons le Big Bang. Il y a une explosion. On a mis en cause souvent le Big Bang. On l'a mis en cause tout récemment, il y a un an ou deux. Vous savez qu'il y avait des particules qui s'étaient échappées du CERN et qui avaient été recueillies dans le nord d'Italie, peut-être par un observatoire du côté d'Aoste. Et la conclusion avait été qu'il y avait des corpuscules qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Si c'était vrai, tout le système s'écroulait. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais tout le système s'écroulait. Ça a été un coup de tonnerre dans le monde de la science. Et puis on a trouvé que c'était une erreur, qu'on avait mal calculé et qu'il n'y avait pas de particules plus rapides que la vitesse de la lumière. Donc on peut compter sur le Big Bang. En plus, vous savez que la presse a fait un sort exagéré peut-être à une recherche scientifique très importante, toujours le CERN, c'était la recherche du boson de Higgs, et qu'on avait appelé un peu bizarrement le boson de Dieu. Pourquoi le boson de Dieu ? Le boson de Higgs était très important parce que c'est lui qui donne la masse à l'ensemble des particules. Et il fallait si le boson de Higgs n'existait pas, de nouveau, il y avait un risque qu'on conteste le Big Bang. Et on a trouvé le boson de Higgs. Donc, on peut dire qu'on peut compter sur ce Big Bang. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang ? Il n'y a rien. Mais puisqu'il n'y a rien, et qu'il n'y a que rien, ce rien, c'est le tout, puisqu'il n'y a rien. Rien et tout, c'est la même chose. Et on pourrait soutenir que le Big Bang consiste à séparer à l'intérieur de ce tout qui est rien, de séparer le rien du tout. Et on a séparé le rien du tout, et on a un petit tout qui n'est pas le grand tout qui est confond avec le néant, mais qui est notre petit tout qui est notre univers. Et cet univers est sorti du rien. Et comment est-ce qu'il est sorti du rien ? Eh bien, vous n'avez que deux hypothèses. La première, c'est qu'il y a eu une volonté, un esprit, quelque chose qui donne un sens à l'univers. Est-ce qu'il y a encore une forme d'anthropomorphisme dans cette conception, c'est possible, c'est possible. De l'autre côté, vous avez le refus total de tout anthropomorphisme, c'est le hasard et la nécessité qui ont
présidé
été à l'origine du Big Bang. Et vous savez, le choix entre les deux choses, c'est très difficile. On me dit souvent, vous qui croyez en Dieu, les choses sont plus compliquées que ça. Longtemps, pendant les siècles et les siècles, il y a eu des preuves de l'existence de Dieu. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Personne ne croit plus aux preuves de l'existence de Dieu. Et maintenant, il y a des ouvrages très importants qui concluent à l'inexistence de Dieu. Il y a un livre d'un type qui s'appelait Dawkins, qui a tiré à 3 millions d'exemplaires, que vous pouvez consulter, qui est traduit en français sous le titre « Pour en finir avec Dieu ». Alors vous avez
c'est un peu présomptueux, je pense.
Voilà. Alors vous avez d'un côté le catéchisme et de l'autre côté « Pour en finir avec Dieu ». Et les difficultés existent des deux côtés. Je peux vous donner les preuves de l'existence de Dieu et les détruire, et puis je peux vous donner les preuves de l'inexistence de Dieu et les détruire également. D'un côté, vous avez le mystère. Dieu est un mystère. De l'autre côté, vous avez l'absurde. Vous avez l'absurde. Comment est-ce que le hasard et la nécessité ont pu constituer cet univers ? Vous savez, ça pose quand même des problèmes. Et le temps et le hasard et l'espace, d'où viennent-ils ? Ils viennent du hasard et de la nécessité ? C'est très, très compliqué. Vous savez, je ne sous-estime pas la formule de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui disent qu'il ne faut pas dire Dieu a créé l'homme à son image, il faut dire l'homme a créé Dieu à son image. C'est un argument assez fort. Mais en même temps, vous vous heurtez à la difficulté. L'évolution, il faut accepter l'évolution. Le grand coup porté à la croyance en Dieu, c'est la ruine, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les astronomes. Copernic, Galilée, Newton détruisent l'homme comme centre de l'univers, c'était aussi une grande idée de la Grèce. L'homme, la mesure de toute chose. Alors cet homme est détruit par Copernic, Galilée et Newton, qui sont tous chrétiens et catholiques. Copernic est chanoine, Galilée est tellement catholique qu'il passe devant l'Inquisition. Newton est tout à fait croyant. Celui qui porte un coup terrible, c'est Darwin. Pourquoi ? Parce que si Dieu crée l'homme et la femme à son image, il peut mettre une conscience et une âme. Mais si nous descendons Non, nous ne descendons pas des singes, mais si, nous sommes cousins des singes. Si nous descendons des primates qui descendent des algues, qui descendent des bactéries, à quel moment s'introduit la conscience et l'âme ? Ça, c'est un problème terrible. Donc, d'un côté, vous avez...
Nous ne sommes plus distincts de la création, c'est ça que vous voulez dire. Nous ne sommes plus distincts de la création.
Oui.
En tout cas, pas initialement.
Pardon ?
Nous ne sommes dès lors plus distincts du reste de la création. C'est ça ?
Eh bien, voilà, l'homme n'est pas distinct du reste de la création. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc, à quel moment ? Personne ne croit qu'un primate, quand il meurt, va aller au paradis. Mais nous sommes des primates. Nous sommes des primates. Alors, est-ce que nous allons au paradis après ? Et en même temps, on peut soutenir que, même en acceptant l'évolution, il y a quand même une différence entre l'animal humain et les autres. Il y a une différence. Alors, d'un côté, vous avez le mystère. Dieu est tout à fait invraisemblable, mais le monde est invraisemblable aussi. Et de l'autre côté, vous avez l'absurde. Rien n'a de sens. Et si vous mourrez, ben vous retournez au néant. Et vous savez... J'étais un malade l'année dernière et j'étais entouré de médecins admirables que j'ai beaucoup admirés et qui étaient pour la plupart athées. Et ce que j'admirais en eux, c'est qu'ils faisaient le bien. Ils s'occupaient des autres sans aucun espoir de récompense. Je ne dis pas que les juifs, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les musulmans... n'agissent qu'en fonction d'une récompense. Mais ils se disent quand même que s'ils se conduisent bien, ben, ce ne sera pas mauvais pour leur avenir. Et les athées qui font du bien aux autres, qui aident les pauvres, qui aident les déshérités, qui se sacrifient pour les autres, est-ce que ce n'est pas admirable ? Je disais à un de mes médecins qui ne croyait ni à Dieu ni au diable, vous serez assis à la droite de ce Dieu auquel vous ne croyez pas. Alors, pour ma part, j'ai choisi plutôt le mystère que l'absurde. Mais je reconnais que le choix est très très difficile. Si vous me dites « Est-ce que vous savez que Dieu existe ?» Je vous dirai non, je ne le sais pas. J'ai été élevé dans la religion catholique. Mais quand on dit qu'on a été élevé dans la religion catholique, c'est en général qu'on l'a quitté. Moi, je ne l'ai pas quitté, mais je suis agnostique, je suis un catholique agnostique. Alors on dit « Vous ne croyez pas en Dieu ?» Agnostique ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu, ce sont les athées qui ne croient pas en Dieu. Agnostique veut dire qu'on ne sait pas. Eh bien, je ne sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est espérer. Je pense que Dieu, on ne peut pas prouver son inexistence. Vous avez donc le droit de croire. Mais le mot « croire » est déjà révélateur. Même ceux qui sont plus attachés à Dieu, comment est-ce qu'ils se définissent ? Des croyants. C'est-à-dire qu'ils croient. Croire, ce n'est pas savoir. Si vous croyez que votre train est à 12h55, vous avez de bonnes chances de le rater. Il faut savoir. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir. Dieu est absent. Mais vous avez le droit d'espérer qu'il existe. Et peut-être que le dernier mot est dit par un grand philosophe espagnol comme Unamuno qui dit « Croire en Dieu, c'est espérer qu'il existe. »
En même temps, au-delà des raisonnements scientifiques, vous décelez sa présence, dans toute... il y a aussi peut-être une façon poétique de s'approcher du divin, de la création, de se raccrocher à ce qui est. Vous donnez une liste de lieux qui tendent à... ou de beauté, ou de choses touchantes, qui laissent à penser qu'il n'y a pas que le hasard et la nécessité, parce que finalement, ce raisonnement-là ne vaut pas autant que les autres.
Alors je dirais, en effet, qu'il y a un certain nombre de thèmes qui... disons, au moins, qui posent la question... La beauté, en effet. Vous savez qu'on a essayé indéfiniment les définitions de la beauté. C'est très difficile de définir la beauté. Le nombre d'or, vous savez, la symétrie, mais il y a une beauté aussi de la symétrie. C'est très difficile de savoir ce qu'est la beauté. Et pourtant, la beauté, ça existe. De temps en temps, nous sommes saisis par la beauté naturelle, par la beauté d'une personne, par la beauté d'une œuvre d'art, par la beauté d'un soir, par la beauté d'un paysage. Ça existe, cette beauté. Existe aussi des moments de... Il y a quelqu'un qui ne croit pas vraiment à l'existence de Dieu, pour qui j'ai une grande admiration, qui s'appelle Paul Venn, qui parle de temps en temps des états d'extase. Il a des états d'extase. Qu'est-ce que c'est que ces états d'extase? Et puis, il y a des choses beaucoup plus simples. Vous savez, les choses les plus simples, je crois qu'on peut réfléchir beaucoup. L'eau est une chose extraordinaire. Si, supposez quelqu'un qui vient d'un autre monde, qui ne sait rien de notre monde, on lui explique ce qu'est la matière. On peut lui expliquer ce qu'est la matière, quelque chose de solide, quelque chose qui résiste. Mais si vous lui expliquez l'eau, c'est une drôle de matière, l'eau. Vous pouvez absorber de l'eau, l'eau peut entrer en vous. Et vous, vous pouvez entrer dans l'eau, vous pouvez nager dans l'eau, et vous pouvez boire de l'eau. C'est une matière extraordinaire, elle entre en vous et vous pouvez entrer en elle. Vous avez des choses encore plus extraordinaires, la lumière, 300 000 km à la seconde. Elle fait en une seconde 7 fois le tour de la Terre. Et vous savez ce qu'elle fait, la lumière? Elle transporte du passé. Quand vous regardez les étoiles, tout le monde sait que il faut du temps pour que la lumière arrive. La lumière fait 300 000 km la seconde, la Lune est à 400 000 km. Combien de temps faut-il pour que la lumière de la Lune nous parvienne? Pas très difficile, à peu près une seconde. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres. J'ai fait le calcul, il faut 8 minutes pour la vitesse, pour que la lumière du Soleil nous parvienne. Il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre. Comment est le Soleil en ce moment? J'en sais rien. Il a peut-être disparu. Je sais qu'il y a 8 minutes, il existait. Et je pourrais vous dire dans 8 minutes s'il existe maintenant. Et si vous regardez très loin, vous savez que vous voyez des mondes, des étoiles qui ont disparu. S'il y a des extraterrestres, je ne sais pas s'il y en a, mais mettons qu'il y en ait, ils ne nous voient pas nous, ils voient nos ancêtres, peut-être très loin, peut-être la guerre du feu, peut-être les Diplodocus, peut-être 100 millions d'années avant nous. Et donc, le passé, il y a quelqu'un qui n'est pas un philosophe, puisque c'est un romancier, c'est Faulkner qui dit non seulement le passé n'est pas mort, mais il n'est pas passé. Eh bien, tout ça, la lumière, le temps, naturellement, le temps est quelque chose de stupéfiant. Est-ce que vraiment le temps, cet avenir qui n'est nulle part, ce passé qui est tout, dans notre tête probablement, eh bien, est-ce que ça peut être le fruit d'une évolution? Il semble bien que non. Alors, d'où est-ce que ça vient? Alors, vous voyez que les arguments, le monde est tricoté de telle façon qu'on ne pourra jamais ni prouver Dieu, ni l'éliminer.
Mais si je peux citer un passage du livre qui fait écho à ce que vous dites, vous écrivez « Dieu est dans le temps, dans la lumière, dans la marche des astres. Il est aussi dans le vent et dans l'eau, dans la fleur qui s'ouvre, dans la chenille qui devient papillon, dans l'éléphant qui voit le jour, dans l'autruche qui sort de sa coquille, dans tout ce qui naît et qui change. » On croirait une nouvelle version de l'Ecclésiaste. On a le sentiment, en lisant votre livre, qu'on s'approche d'une béance proche du nihilisme pour ensuite en sortir par le haut en se raccrochant à des choses tangibles. Il y a de ça,
oui,
non?
C'est ça. Et vous savez, j'ai reçu beaucoup de lettres. Je reçois énormément de lettres en ce moment. C'est même un problème très difficile. Je voulais bien profiter de Canal Académie pour dire que je ne peux plus répondre aux lettres. Je reçois une centaine de lettres par jour. Par jour. Ma vie devient très difficile. Et j'ai reçu des lettres datées, magnifiques, merveilleuses. Et j'ai reçu des lettres de prêtres magnifiques. J'ai reçu une lettre dominicale, Père Geoffrey, qui est un dominicain très connu, qui a une formule extraordinaire. Il me dit, je partage votre opinion. Dieu tire le monde de rien, c'est-à-dire de lui-même. C'est un prêtre qui m'écrit ça. Dieu tire le monde de rien, c'est-à-dire de lui-même. Aux yeux de nous, aux yeux du temps et de l'espace, nous ne pouvons pas, nous savons depuis quand que nous ne pouvons pas sortir de l'espace et du temps. Mais Dieu n'est pas dans l'espace et dans le temps. S'il existe, il n'est pas dans le temps. Et il se confond évidemment avec ce néant qui se confond avec le tout. Nous ne pouvons pas l'imaginer, nous ne pouvons pas le concevoir. Mais il y a peut-être, mais nous ne pouvons pas croire non plus. Rien ne sort pas, rien ne sort de rien. Avant qu'il y ait quelque chose, il n'y avait peut-être rien, mais ce rien a quand même réussi à créer l'univers. Qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce que c'est... Si c'est le hasard sur quoi travaille-t-il ? Si c'est Dieu, je reconnais que c'est incompréhensible. Mais au moins, on se dit, s'il est tout-puissant, tout est possible. C'est vrai que c'est une réponse. Dieu est une réponse quand on ne sait pas. C'est vrai. Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas savoir. Et il faut bien qu'il y ait eu quelque chose avant que le monde fût le monde.
Oui, et puis ça semble aussi une nécessité d'ordre philosophique ou métaphysique. Si, effectivement, si Dieu n'existe pas, comme disait l'autre, tout est permis. Tout est permis, et probablement peut-être le pire.
C'est le mot de Dostoïevski. Alors évidemment, il y a le... Il y a les tentatives de créer des morales laïques. Alors, les tentatives de créer une morale laïque, moi, je crois beaucoup à la transcendance. Je crois il y a beaucoup de philosophes qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont quand même tentés par la transcendance. Il y a une formule de Jean Kelevitch qui est magnifique. « Vivre est éphémère, mais le fait d'avoir vécu cette vie éphémère est un fait éternel. Où s'enracine cette éternité ? Voilà. C'est vraiment pas un jeu de mots. C'est vraiment, on se dit, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ? Et vous savez bien que la vérité et la justice que nous recherchons, vous savez bien que nous n'y parviendrons jamais. Nous faisons un élan vers la vérité. Et cet élan est admirable, vous savez. Les hommes, c'est quand même quelque chose de magnifique. Mais on n'aura jamais toute la vérité. Il semble bien que cette vérité que nous atteignons soit comme le reflet d'une autre vérité. Comme la justice, nous ne l'aurons jamais. Elle est comme le reflet d'une autre justice. Il y avait la formule si belle de Platon, le temps et l'image mobile de l'éternité. Eh bien, est-ce que notre vérité et notre justice ne sont pas les reflets d'une grande vérité et d'une grande justice dont nous ne pouvons rien savoir ? Et vous savez, je voudrais vous dire tout de suite que quand on me dit, vous qui croyez à Dieu, vous croyez que je ne sais pas que Dieu a fait couler énormément de sang ? Dieu a fait couler beaucoup de sang. Nous avons maintenant des exemples avec le djihad de ce que peut faire l'image de Dieu. Mais ne jetons pas le discrédit seulement sur les autres. Vous croyez que l'Inquisition, c'était très bien ? L'Inquisition était abominable. L'attitude des catholiques envers les protestants sous Louis XIV, c'est abominable. Dieu a couvert bien des choses atroces, non pas Dieu, mais l'image que les hommes se font de Dieu. Et la clé de l'affaire est là. Il faut qu'il y ait une sorte de coopération entre Dieu et les hommes. Dieu sans les hommes, c'est une horreur. Les hommes sans Dieu, c'est une horreur aussi. Mais Dieu, peut-être l'idée d'un Dieu associé et qui passe ses pouvoirs aux hommes, ça, c'est peut-être quelque chose qui est possible. Il me semble qu'on pourrait peut-être se dire qu'il y a tout de même quelque chose au-dessus de nous.
Ça semble même une nécessité d'autant plus urgente, parce que nous soyons chacun mortel, appelé à disparaître, nous le savions. Ce que nous apprennent les dernières découvertes scientifiques, celles dont nous parlions au début de l'émission, c'est que le destin de l'humanité entière est incertain. Ce qui est quand même autre chose encore. Que nous passions tous successivement de vie à trépas, c'était prévu. La mauvaise nouvelle, c'est que le destin de l'univers entier est totalement incertain. Et là, on est face à réellement une béance effroyable.
Qui est-ce qui nous apprend ça? Ce n'est pas l'argument, c'est la science. La science nous dit que l'univers va disparaître. Nous savons très bien que le soleil va disparaître. Oh, vous savez, j'ai souvent raconté une histoire d'un type crétin comme moi qui parle de tout ça et qui dit le soleil est à la moitié de sa course, il a 5 milliards d'années, il a encore 5 milliards d'années devant nous. À ce moment-là, il y a une jeune fille qui s'évanouit, on la tapote, on lui donne un peu d'eau, on lui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « comment, vous n'avez pas entendu ce que dit le conférencier ?» Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le soleil allait disparaître dans 5 millions d'années. On lui dit « non, 5 milliards d'années. »« Ah, dit la jeune fille, j'avais compris 5 millions d'années. » 5 millions ou 5 milliards, il disparaîtra. Et l'univers disparaîtra lui aussi. Et les hommes disparaîtront avant. Il y a quelqu'un de plus éminent que moi, qui était Claude Lévi-Strauss, qui dans la formule était « il y a eu un monde sans les hommes, il y aura un monde sans les hommes, les hommes disparaîtront ». Ça c'est certain, comme vous dites, pas non seulement chacun de nous, mais l'espèce humaine disparaîtra. Pourquoi ?
Mais ça, c'est une idée insupportable.
Les diplodocus ont disparu. Ils ont duré, vous savez, 100 millions d'années, c'est beaucoup. Et ils étaient très puissants, au moins aussi puissants que les hommes. Peut-être un peu moins intelligents, mais très puissants. Eh bien, nous disparaîtrons aussi. Et alors, quel est le sens de ça? Je suis évidemment plutôt du côté des communistes et des catholiques, c'est-à-dire de ceux qui croient que l'univers a un sens. Je me sépare peut-être d'eux parce que nous ne savons pas quel sens a cet univers. Le sens de l'univers est caché, mais je pense que l'univers a un sens.
Est-ce que cela suffit pour s'en tirer ou il y a d'autres méthodes pour conserver la joie de vivre qui se lit sur votre visage tout en nous apprenant que l'humanité va disparaître, mais que probablement, peut-être, oui, il faut faire le pari qu'il y a un sens.
En tout cas, nous, chacun de nous disparaîtra. Et grâce à Dieu, nous ne le croyons pas vraiment. Nous le savons, mais c'est le thème du divertissement de Pascal. Vous savez, ce livre n'aurait pas été écrit sans les pensées de Pascal. Les pensées de Pascal n'auraient probablement pas été écrites sans les confessions de saint Augustin, qui dit par exemple, à propos du temps, il y a cette formule si belle, si magnifique, « Si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est. Mais dès que tu me demandes ce qu'est le temps, je ne sais plus ce que c'est. » Eh bien voilà, nous vivons dans un monde qui, quand même, nous dépasse. Il nous dépasse. Eh bien voilà, ce petit livre est une espèce de tentative naturellement désespérée d'imaginer ce qui nous dépasse.
Ça pourrait être le mot de la fin, mais je voudrais revenir à une intuition que j'ai eue sur la forme, me demandant si ce n'était pas une tentative, vous avez utilisé le mot de désespéré, de réconcilier les découvertes implacables de la science avec l'esprit de poésie et la capacité aussi d'émerveiller, la capacité d'émerveillement.
Vous avez tout à fait raison. Peut-être qu'une de mes caractéristiques, c'est l'émerveillement. Je me suis souvent présenté comme le bonnet de la crèche. Vous savez, le type qui trouve toujours tout très bien.
Et le ravi.
Oui, le ravi de la crèche, une espèce de ravi de la crèche. Et c'est vrai que j'ai une capacité d'admiration très grande. L'admiration, aujourd'hui, n'existe presque plus. La dérision l'emporte surtout. Et il y avait, il y a 50 ans ou 60 ans, il y avait un livre qui s'appelait « Les deux cultures ». C'était un type qui s'appelait Edgar Snow, qui disait que entre la littérature et la science, les ponts étaient entièrement coupés. Un écrivain ne sait plus rien de la science, un savant méprise un peu, dédaigne un peu les écrivains. Eh bien, j'ai essayé, comme vous le dites, de réconcilier un peu littérature et science dans l'émerveillement du monde, en se disant quelle stupeur d'être là, comment le soleil se lève tous les matins, c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il se lève tous les matins et pourquoi est-ce que nous sommes là? Alors évidemment, on peut se dire que tout ça est un tissu de hasard, ça n'a aucune signification, tout est permis et tout sera oublié et tout finira dans le néant. Et puis il y a quand même quelque chose en nous qui nous dit ça a un sens. Il y a un sens et toute l'histoire de l'humanité, science, littérature, vie privée, amour, profession, tout, est peut-être la recherche désespérée de ce sens.
Merci beaucoup Jean-Dormesson. Cette fois, je pense que peut-être une très belle conclusion. J'ôterai en rappelant les références de votre ouvrage comme un champ d'espérance, pardon, publié donc aux éditions Héloïse Dormesson, et qui est à lire non seulement comme un exercice de réflexion spirituelle, mais peut-être aussi comme une forme de recette du bonheur, réconciliant donc science et capacité d'admiration. Merci beaucoup. En ces temps troublés, merci. Nous en avons bien besoin. Merci.